Ce barbier était un type assez grand, maigre, pointu du derrière, des épaules, de la tête. Il sentait l'eau de Cologne dont il parfumait sa chevelure, plate et luisante, comme une queue de castor. Sur la scène, costumé, maquillé, empanaché, il avait l'élégance d'un seigneur. Mais vu de près, dans sa jaquette blanche de barbier, son propre texte en bouche, il était laid et intimidant. On ignorait tout de lui. Sinon, qu'il portait des gants même en été, et clignait de l'œil aux filles du couvent par-dessus la barrière. Il prenait ses rôles au sérieux, je crois. Un après-midi, j'entrais dans son salon comme à l'ordinaire. Tout brillait en ordre dans l'odeur de poudre. Pas de clients. Je préférais la présence des clients. Surtout de ces impressionnants bavards aux voix orageuses, aux gestes de parlementaires, qui gèrent, digèrent, nouent, dénouent les problèmes de l'État et de l'univers, comme s'ils découpaient les pages d'un livre avec un coup de papier. Attendre sur une chaise, feuilleter des revues tout en écoutant les conversations, m'amusait follement. Cette fois-là, salon vide. L'homme en question se tenait derrière les portières, sorte de draperie verte avec des glands, qui cachait l'arrière-boutique, d'où je voyais dépasser ses pieds. J'entendais sa voix étouffée qui, tâchant d'être calme, disait « Mais va-t'en, maintenant c'est assez, un client vient d'entrer, va, sois sage. » « C'est un enfant, » lui répliqua une voix de femme, « mais non, c'est un client. » Puis il parut, souriant, ses lèvres étaient rouges et enflées, une veine bleue, de la même forme que le petit serpent sur sa cravate, sortait de son front. Il décrocha la planchette de bois, siège pour les enfants, il posa sur la grosse chaise par-dessus les bras et me fit monter. Il s'appliqua de toutes ses forces, je le voyais bien, à concentrer son esprit sur ma tête pour oublier je ne sais quoi. La veine de son front semblait pleine de colère, mais il souriait un peu comme au théâtre. Il déplia une serviette neuve qu'il fit claquer avant de me la passer autour du cou. « Comment les veux-tu ? » ?»« Cours. » Les petits râteaux électriques se mit à me sarcler la nuque, le tour des oreilles, les tempes. Les portières bougeaient là-bas. Puis j'entendis la voix de femme qui disait carlinement comme une chatte qui appelle « Lucien, mon Lucien ». Le barbier me lâcha un grand soupir dans le dos, arrêta le moteur et s'enfuit vers les draperies, le sourire aux lèvres. « Va-t'en, j'ai un client. » Lucien miaulait la voix de femme. « Ah, sainte paix, sainte paix !» Lucien répétait la voix, tenace comme la pluie qui tape sur la vitre. Après un silence et des soupirs et des froissements de linge, j'entendis le barbier qui disait comme un enfant, « Allons, mouche ton nez, ne pleure plus, assis-toi. » Le barbier revint vers moi, il était nerveux, et sa pomme d'Adam pointue roulait des jurons dans sa gorge. Il reprit son travail avec les ciseaux cette fois, ses longs doigts secs les faisaient claquer. De temps en temps, pour se soulager, il me prenait le toupet et taillait comme dans de l'étoupe en souriant. Tout à coup, il jeta brusquement ciseaux et peigne sur la tablette et courut vers les draperies. Alors j'eus le temps d'entrevoir une femme en robe, tête nue, assise sur une petite chaise dure sous le téléphone à long bec, qui pleurait, en tenant son mouchoir sur ses dents, comme un boyon, pour s'empêcher d'éclater. Elle suppliait, « Non, Lucien. Assez, viens. » Puis les portières s'ouvrirent, et je vis le barbier pâle, la veine grossie. Il avait posé le manteau sur les épaules de la femme et la poussait dans le dos. Je ne vis pas le visage de la femme à cause d'un châle qu'elle avait sur la tête. « Va, va, » lui disait doucement l'homme. Je baissai les yeux étrangement gênés. Qui était cette dame qui avait une si grande peine? Le barbier la prit par le bras et la conduisit à la porte, en guettant par la vitre la venue probable de clients. Il ouvrit, et voilà ce qui me surprit beaucoup. La femme s'accrocha à la main de l'homme et pressa ses dents comme pour la mordre en grognant « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Trois fois. Lui s'arracha brusquement de l'étreinte et claqua la porte. Maintenant, elle traversait la rue, la figure toujours cachée sous le voile. Malheureuse comme une fleur dans la neige, elle disparut. Les secondes qui suivirent furent remplies de soupirs. Le barbier me les lançait dans le dos, des soupirs si longs que j'en sentais la chaleur à travers ma chemise. « Jupe !» murmura-t-il. Je le regardais dans le miroir, il s'en aperçut et sourit. Mais son sourire n'était plus celui d'un jeune premier. « Tu n'es pas pressé ?»« Non, monsieur. » Il sortit une cigarette d'un boîtier en or, la piqua dans un porte-cigarette en or et tira quelques longues bouffées avant de continuer son travail. Cela lui fit du bien. À travers la fumée, il voyait, j'en suis sûr, cette femme en larmes qui lui avait mordu la main. Quand tu seras grand, fuis les femmes. Je rougis. Il semblait envier mon ignorance et mon âge. Il se leva prestement, m'aspergea d'eau de Cologne. Il me gratta le cuir chevelu, me sépara les cheveux par une raie blanche. Je lui remis mon 25 sous, sautai en bas du siège et m'enfuis en dansant. Au coin de la rue, je me dépeignis en vitesse afin que Fidor me reconnût. Et les mains dans les poches, je pensai à la femme qui avait dit « je t'aime ». Voilà, c'était mon heure d'y penser. J'essayais de trouver une définition de la femme. Pourquoi n'étions-nous pas tous pareils sur Terre? Pourquoi elle en robe et nous en pantalon? Pourquoi les hommes avaient-ils une si grosse voix et elle une délicate? Pourquoi, quand à ma voiture, j'attelais l'EDN, ne pouvait-elle courir et sauter comme Fidor? Maintenant, qu'allait-il arriver au barbier? Plus tard, l'air distrait, je repassais devant le salon. La porte était sous-clé, la toile baissée. Et dans la vitrine, un carton avec le mot « fermé » pendait. Je m'enfuis à mes jeux pour écraser toutes ces choses. Le lendemain soir, Fidor arriva chez moi, me poussa dans un coin. Avec grand mystère, il me dit « Au petit lac, des hommes en canot cherchent. » Quoi ? Avec des gaffes, une femme qui s'est noyée. Comment ? Il répéta tranquillement son affreuse nouvelle. La femme au mouchoir sautant dans mon cerveau, et je la vis dans un éclair se lancer du haut du pic. Ses cheveux se dénouaient dans la chute, l'enveloppaient, et lui faisaient un brouillon. Je savais tout, mais je me tairais. Personne au monde ne m'aurait fait dire que j'avais vu pleurer cette femme dans le salon du barbier. Fidor me secoua l'épaule par deux fois. Rêves-tu ? Non, non, allons-y. Et en cours de route, Fidor fit voir par quelques paroles qu'il en savait beaucoup plus long que moi. Comme nous arrivions au bord de l'eau, un homme vidait son canot. Vous l'avez repêché ? Il nous montra une automobile qui s'éloignait là-bas en vitesse et des gens qui couraient derrière. Nous marchâmes jusqu'aux bords escarpés où l'abîme se creusait devant nous. Fidor huma l'endroit et dit en fixant l'eau, lui qui savait les sciences, elle a dû crier un grand cri. Au souper, papa discrètement dit à ma mère, ils l'ont repêché, c'est Bérubé qui l'a repêché. Papa s'absenta cette veillée-là. Mes frères et sœurs parlaient de noyade en prenant des voix sourdes comme le fond des mers. Ma sœur la sportive s'enfuit vers la petite bibliothèque et revint avec un livre dans lequel il y avait des pieuvres endormies au fond d'une eau mystérieuse. Moi, je voyais toujours une femme lisse et belle rouler dans l'onde, mordre des branches marines avec des bagues en disant « Je t'aime, toi ». Nous n'en sûmes pas plus long, et c'était suffisant pour nous donner la chair de poule. Mais quelques jours plus tard, en écoutant parler les gens de la fanfare, nous apprîmes que cette femme était la femme de Bérubé. Après avoir repêché son infidèle, le forgeron arriva lui-même chez l'homme qui lui avait volé sa femme. Il paraît que le barbier, qui n'avait plus l'air d'un don juan du tout, craquait de tous ses membres en tournant un rasoir dans sa main. Bérubé s'était avancé sans crainte, comme au premier contact avec un cheval dangereux à la forge. Approche pour payer. Brandissant une bouteille, il l'avait cassée sur la tête de l'homme pointu en criant « Sors de la ville tout de suite, cochon !» À partir de ce moment, le forgeron délaissa ses marteaux et son feu. Les étoiles rouges qui bondissaient autrefois sous le soufflet de la forge moururent de froid. L'homme gaspillait ses journées à la taverne, incliné sur sa peine. Souvent, nous l'apercevions de loin, malpropre, titubant, une poche d'huître sur l'épaule, détenu au milieu du chemin, la barbe hirsute qui chantait à pleine gorge. « J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. » Il s'était arraché le cœur. Cette nuit-là, j'eus des cauchemars. Je revis la bataille de chiens et la belle femme qui était venue féliciter Fidor en lui touchant le menton. Gaspard la voix qui disait « Je m'arracherai le cœur. » Le forgeron, sa poche d'huître sur l'épaule, et le barbier vêtu en chevalier qui saluait une foule.